Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et le débrief de la tech avec nos débriefeurs du soir, Didier Sens, journaliste. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Tout va bien, tu as récupéré ta connexion?
Oui, c'est bon.
C'est bon, on peut démarrer.
On peut
avec
commencer.
Nous également Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Frédéric.
Fondatrice de Retency. Retency qui accompagne les entreprises, voilà, sur les conseils stratégiques et puis évidemment autour de la technologie, puisque il y a quelques années, tu dirigeais Yahoo, donc tu connais bien Yahoo France. Tu connais bien tous ces sujets, bien entendu. Et puis Alain Goudet. Bonsoir Alain.
Bonsoir. Frédéric.
Merci d'être avec nous, directeur général adjoint de Neoma Business School. On parlait dans le couloir, pour tout vous dire, de comment les étudiants ressentent un peu cette révolution. Et ça va, il mettrait... Enfin, faut bien les préparer, c'est ça?
C'est important de bien les préparer, oui.
Alors, on va démarrer avec vous. Alors, hier soir, Léa Benaïm, dans son Flash Tech, parce que les nouvelles de Google venaient juste de tomber. Donc, Google qui... on va reparler de SpaceX dans un instant, parce qu'ils ont cette alliance avec SpaceX. Mais là, c'est Google Book. Google qui lance une gamme de PC où l'IA est au premier plan. Ils ont mis alors, ça s'appelle Gemini Intelligence. Et ils sont en train de préparer l'après Chromebook. Alors, on va voir un peu qui deviennent concurrents. Alors, c'est vrai que le Chromebook Premium n'avait pas très bien marché. Est-ce qu'ils viennent concurrencer l'écosystème des plutôt haut de gamme, des portables plutôt haut de gamme, l'écosystème Mac? Comment il faut faire ça, Didier? Je sais que tu adores cet univers des PC. Comment
oui,
tu vois l'arrivée de ces Google Books?
Alors, j'avais été déjà assez emballé par les premiers Chromebooks parce que je trouvais que le principe était intéressant, c'est-à-dire des ordinateurs ultra légers, ultra simples, qui fonctionnaient essentiellement avec des applications web et dont toutes les données étaient centralisées sur le cloud. Je trouvais ça intéressant. En plus, c'était vraiment très bon marché. Là, ils adoptent une position un peu différente. Ils voient l'étape suivante. Donc, ils appellent ça des Google Books parce que dedans, il va y avoir un nouveau système d'exploitation qui est basé essentiellement sur Android. Donc, il va y avoir forcément des interactions avec les Android qu'on connaît sur les smartphones. L'une des fonctions majeures qu'a présenté Google à cette occasion, c'était la possibilité de cloner le téléphone sur son PC Google Book pour avoir accès à son contenu, afficher les applications, les lancer, un peu ce qu'on peut faire maintenant sur Apple avec le système de réplication, de miroir d'écran, etc. Donc ça c'est bien, mais surtout, comme tu le disais, l'argument premier de ces Chromebooks, c'est l'usage massif de l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, ils sont déployés où, surtout les Chromebooks?
Les Chromebooks, c'est beaucoup le monde de l'éducation.
Ouais, c'est ça, c'est beaucoup le monde de l'étudiant, enseignement.
Étudiant, enseignement, un peu dans les bureaux, mais c'est vraiment pour faire de la bureautique. C'est pour du montage vidéo, des applications
intenses. C'était notre terminal de l'époque, quand on était bien jeune, presque. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc maintenant, il s'appuie sur l'IA pour créer cette nouvelle génération de PC. Alors, j'insiste deux minutes sur tu posais la question, est-ce qu'ils vont venir concurrencer les PC haut de gamme? Je pense pas.
Voire même le Mac Premium.
Ils ont un créneau, il y a une place pour ce type de produit qui est à côté, je dirais, de macOS et de Windows. Et là, en l'occurrence, pour l'utilisation de l'IA, ça va vraiment apporter quelque chose d'un peu novateur. Là, on voit les exemples sur les écrans derrière. Ils ont inventé un truc assez marrant qui est le Magic Cursor. En fait, on bouge la souris et quand la souris arrive sur une certaine zone de l'écran, elle propose des actions en relation avec ce qui est affiché à l'écran, géré par l'intelligence artificielle. Par exemple, vous mettez le curseur sur la photo d'une robe, la photo d'une personne à droite, vous secouez et il va proposer de mettre la robe sur la personne.
D'accord.
Ou un meuble dans un coin, une photo de l'intérieur de chez moi, et hop, le meuble va être à l'intérieur. Donc, l'idée de Google, c'est de faire de cette relation avec l'intelligence artificielle vraiment le cœur de l'usage de cet ordinateur. C'est-à-dire que ça sera pas un truc annexe comme on a aujourd'hui. On pose une question à ChatGPT et on prend le résultat ou on le prend pas, ou on envoie une image sur Google Images ou sur Nano Banana, etc. Maintenant, c'est vraiment au cœur de l'expérience utilisateur.
Parce que moi, je me demande, avec l'intégration d'Android, qui devient un peu l'OS universel, oui. Alors ils en parlent parle évidemment sur ces nouveaux, j'allais dire Chromebook, non, sur ces nouveaux Google Book. Ils en parlent, alors Samsung Galaxy va sans doute y être, les Pixels, enfin tout ça, bah, on va pouvoir fonctionner tous ensemble. Est-ce que l'enjeu dans tout ça, Isabelle, c'est pas la guerre des systèmes d'exploitation IA, on va dire?
Bah, en fait, ce qui est vraiment intéressant, et Google le démontre là une fois de plus, c'est comment l'intelligence artificielle crée un élément totalement différenciant sur le marché, et la capacité de Google, à la différence des OpenAI par exemple, de pouvoir intégrer et distribuer leur outil IA dans un maximum de services de la vie quotidienne des gens. Et donc là, de nouveau, avec ce nouvel écran, c'est-à-dire que déjà, lorsque vous êtes sur votre mail, vous pouvez avoir accédé à des services qui sont nativement intégrés avec de l'IA. Lorsque vous êtes bien évidemment sur le moteur de recherche, vous avez des systèmes déjà préétablis. Alors, moins en France que dans d'autres pays,
oui, après,
mais vous avez déjà
des synthèses
qui sont proposées par l'IA. Et là, il rentre dans l'univers de la vie quotidienne avec la création d'un nouveau PC où, comme le disait très bien Didier, l'IA est un nouvel outil totalement intégré dans la vie quotidienne. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il casse ce silo que Apple avait commencé déjà un peu à casser entre votre univers Android, c'est-à-dire votre univers téléphone, qui encore aujourd'hui, pour une majorité de gens, est très différent de l'univers du PC, de son ordinateur. Donc là, en termes du X et en termes de service, il casse les silos. Et j'ajoute, donc, ces deux avantages...
J'ajoute que cette idée de mélanger l'OS du PC et l'OS du portable, c'était une expérience qu'avait tenté Windows. Tu te rappelles Windows 7 ?
Oui.
Qui était censé être le même système d'exploitation pour les PC et pour les téléphones portables. Mm-hmm. Ça fait un flop monumental. Un flop monumental, mais l'idée était là, et effectivement, elle a été reprise, des briques, du concept ont été reprises à droite à gauche, notamment sur macOS et maintenant sur Google.
Voilà, mais je pense que c'est moins abouti que ce que va proposer aujourd'hui. C'est-à-dire, Apple est allé moins loin que ce que va proposer, semble-t-il. Alors, on n'a pas encore vu les produits, semble-t-il, Google. Et puis après, il y a une autre démarche stratégique qui est intéressante de la part de Google. Google n'est pas dans le hardware. Et là, ils vont quand même dicter de manière extrêmement
Ils ont des TPU.
Ils commencent petit à petit, mais je ne suis pas sûre qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Mais là, par contre, ils vont quand même capter une partie de la valeur ajoutée du hardware, parce qu'ils vont dicter à Acer, à Samsung. Alors, il y avait un peu une polémique sur Samsung qui ne faisait pas partie de la liste de leurs partenaires. Un cahier des charges extrêmement strict, et donc il va obliger en fait les constructeurs de hardware de répondre à une problématique très spécifique, et donc de faire des ordinateurs spécifiques pour eux et pour Aluminium OS, qui est ce fameux navigateur.
Ils l'ont pas dit, mais bon.
Voilà, qui fait ce lien entre votre mobile et votre PC. Donc ils vont clairement prendre une partie de la valeur captée par les constructeurs de hardware sur ce produit. Et alors maintenant, leur premier ordinateur, c'est 25 millions de ventes. Donc c'est tout petit sur le marché des ordinateurs. Là, c'est un vrai challenge. Ils veulent le positionner plus premium. L'IA, ça coûte cher. Donc ils sont obligés effectivement de le positionner plus premium et plus cher. On va voir si ça marche.
Et puis petit coup de pied pour Apple, un petit coup de pied quand même de côté, petit croc en jambe pour Apple, puisqu'ils intègrent Gemini Intelligence. Voilà, là où Apple encore du mal à mettre son Apple Intelligence dans ses équipements.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce mouvement stratégique, c'est que là où Apple fait du spatial computing, là on pourrait presque dire ils font du cognitive computing, en allant sur le terrain de, finalement, l'IA va être au cœur du dispositif et de la relation humain-machine. Et du coup, ils vont explorer en fait cette démarche d'avoir un outil à la fois très polyvalent, c'est-à-dire à la capacité de passer du smartphone à l'ordinateur et de revenir, etc. Mais en plus, avec un relationnel et le rapport humain-machine qui est très particulier, puisque il le dope quand même très fortement à l'IA, avec des interactions assez étonnantes, et qui vont être assez nouvelles. L'autre signal qui est assez intéressant, pour le coup, je pense que Google se renforce, en fait, justement, dans la stratégie autour du hardware. Tu citais les TPU. Je suis pas certain qu'ils vont rester si timides que ça. Donc, autour des TPU.
Des composants plutôt dédiés à l'inférence.
Et qui permet justement de l'inférence en local, qui est quand même un point de force de toute la stratégie Apple Silicon, hein, donc de toutes les puces.
D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils avaient entraîné, enfin que Google Gemini, les bons résultats qui étaient à l'époque, quand ils l'ont sorti il y a quelques mois, c'était sur du TPU.
Sur leur propre hardware.
Google.
Absolument, effectivement, ils investissent sur les semi-conducteurs, mais ils n'ont pas encore investi sur du hardware grand public.
Ouais.
Mais effectivement, leur clé de différenciation est une des clés de la capacité, de la rapidité de Gemini, c'est clairement ces semi-conducteurs.
Et puis le cloud derrière.
Et la force du côté cloud, data centralisée déjà, et ce qui du coup est aussi possiblement une faiblesse, parce qu'une fois que tu embarques l'IA au cœur de l'interaction humain-machine, et que tu deviens effectivement une espèce de moteur à anticiper le besoin dans le cadre de l'interface de ce que l'utilisateur veut, tu as quand même un vrai sujet qui est la confiance accordée par l'utilisateur sur le traitement non plus de ces données entre guillemets déclaratives, mais de ces données comportementales. Et là, ça devient un sujet quand même un peu.
Ils ont donné une date de disponibilité
Oui, je l'avais noté.
C'est fin d'année, je crois.
Oui, fin d'année.
C'est pour Noël, les ventes de Noël.
Mais c'est intéressant cette idée de Google est actuellement l'opérateur qui a le plus de données utilisateurs en sa possession, raison
de
pour laquelle raison pour laquelle son IA est l'une des plus performantes parce qu'elle est parfaitement entraînée à partir de données très larges.
Multilingue, enfin voilà.
Là, t'imagines tout ce qu'ils vont récupérer avec ça ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir non seulement les usages de l'ordinateur et la manière dont les gens utilisent l'ordinateur, ce qui va servir à faire un apprentissage de leur IA et en plus à optimiser toutes les applications qu'ils vont proposer. C'est une arme absolument incroyable.
On a notre Français qui est très fort là-dedans, Jonathan Cherki, là, comment s'appelle son entreprise?
Content Square.
Voilà.
Alors c'est différent. Content Square, c'est l'analytics sur les sites.
Mais ça suit un peu.
Mais il l'a en silo, c'est-à-dire qu'il n'a pas une vision transversale.
Là, il y a tout.
Là, c'est une vision transversale. Et alors après, il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est la navigation à la voix. Alors, ils en ont
automne
parlé
2026,
en fait. Ils en ont parlé dans les descriptifs, etc. Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, Siri avait montré beaucoup de difficultés dans sa mise en place, même si ça s'améliore aujourd'hui. Et là, ils expliquent qu'effectivement, avec la voix, on pourra demander, par exemple, la création d'un widget directement sur cette nouvelle interface.
Oui, parce qu'on n'a pas, parlé de la voix, mais c'est vrai que parler à son ordinateur, déjà donc, maintenant toucher l'écran, c'est vrai qu'on s'y habitue.
Donc avec Apple, on a appris à toucher son écran, ce qui était quand même une révolution en termes du X. Et effectivement, cette interaction à la voix, on l'attend depuis longtemps. Et on va voir ce que Google nous propose avec cette nouvelle.
Ce qui peut marcher, hein. Ils ont un des meilleurs modèles multimodal aujourd'hui, hein. Ils ont fait les annonces là, je crois que c'était hier ou quelque chose comme ça, où ils disent, voilà, clairement, on a une convergence multimodale sur les modèles IA. Et on voit aussi, d'ailleurs, que tous les acteurs finalement de la tech sont en train de réfléchir à l'après smartphone, l'après ordinateur, avec de nouvelles formes finalement d'interaction et où l'IA jouera un rôle majeur.
Et donc là, l'exemple qui était donné, c'est la création de widgets, c'est-à-dire de raccourcis. Pour les gens plus âgés comme moi, directement sur son bureau, où on peut dire, ben voilà, crée-moi un raccourci ou un accès direct de mon bureau pour suivre ma livraison. Et l'agent IA se crée immédiatement avec à la voix. Ouais. Et donc, c'est vraiment des ruptures en termes du X qui sont très importantes.
J'imagine même ça dans un cadre bureautique. Hein, on est toujours en train de chercher ses fichiers et tout ça, lui dire, trouve-moi, mais fais-moi un accès direct vers ce répertoire-là.
Est-ce que votre bureau serait mal rangé, monsieur Frédéric?
Non, mais j'oublie parfois dans quel répertoire je l'ai mis. Autre sujet, on va rester Google. Alors, c'est de savoir, est-ce que le futur de l'IA sera... dans l'espace.
Une fois, le terme de cloud aura au moins une
référence. Le cloud serait... Alors, Google serait en pourparlers avec SpaceX. Alors, c'est un article du Wall Street Journal, mais enfin, bon, qui est quand même assez documenté. Alors, il faut savoir que Google est un actionnaire minoritaire de SpaceX.
6%.
Oui, oui. Et que si SpaceX entre en bourse et dégageait les 1200, 1300 milliards, ça fera un beau petit pactole pour Google aussi en termes d'action. En tout cas, ils veulent lancer dès 2027 des satellites capables d'héberger de la puissance de calcul pour l'IA. Alors c'est contourner les limites énergétiques, enfin il y a pas mal de choses, pourquoi pas en cyber aussi. Le cloud spatial, faut y croire. Alain, je te marre avec toi.
Alors oui, enfin je crois qu'on est dans une période où en tout cas il faut se poser la question.
Enfin voilà, c'est une idée qui commence à cheminer. Hein,
non mais il faut se poser la question. Il y a quand même un vrai sujet sur l'histoire du cloud spatial et notamment pour venir nourrir justement et entraîner les modèles IA, etc. Aujourd'hui, le facteur limitant de l'IA, c'est l'électricité. Du coup, c'est la capacité à avoir finalement de l'énergie électrique un peu meilleur marché. Alors, ça ne veut pas dire que le spatial résout tout. Ça résout une partie de l'équation, mais pas la totalité, parce que voilà, les conditions dans l'espace sont un peu plus complexes que sur Terre.
Oui, parce qu'on parle de évidemment la température ambiante, mais il y a du rayonnement.
Ah bah, il y a du rayonnement qui peut griller les circuits électriques. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Après, il y a un autre sujet aussi qui est la problématique du refroidissement. Et en fait, si tu veux, quand tu cumules les deux, quand tu regardes aujourd'hui les problématiques sur les data centers, c'est qu'en fait c'est assez politiquement incorrect de construire un data center parce que t'as la problématique justement de rareté de l'eau et finalement le spatial apparaît comme un territoire à explorer parce que malgré les défis techniques qui restent qu'on n'a pas résolus du tout, c'est quand même un territoire sur lequel ça pourrait faire sens parce que au moins politiquement c'est un peu plus simple à gérer finalement dans la création.
En basse orbite on est à 600 km donc on est là, c'est pas
et après,
si loin.
L'alliance avec SpaceX fait sens parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes en termes de finalement de capacité de maintenance d'un certain nombre de dispositifs en grand nombre en orbite, c'est un peu les seuls qui savent le faire.
Oui, enfin le partenariat. Didier. Oui, juste pour rappeler le partenariat, d'après ce que j'ai compris, il porte uniquement sur le lanceur, pas du tout sur le partage de ressources ou quoi que ce soit.
Google, par exemple, il veut lancer des satellites capables d'héberger de la puissance de calcul de l'IA. Donc il veut.
Ils auront leur propre truc indépendamment de ce que fait SpaceX de son côté.
SpaceX a d'ailleurs signé avec Anthropic il y a quelques semaines.
Oui, c'est pour ça que ça peut bouger. Mais
et d'ailleurs, Google n'est pas en négociation exclusive avec SpaceX, c'est-à-dire qu'il pourra faire appel à d'autres lanceurs pour lancer ses réseaux dans l'espace.
Blue Origin en Europe.
On espère qu'ils vont évidemment s'adresser à Ariane. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça, et puis effectivement, ils ont l'idée étant que, moi j'ai trouvé ça très très poétique, c'est que on a d'un côté les rayons du soleil qui vont produire l'énergie, de l'autre côté le froid de l'espace qui va refroidir les data.
C'est ça. Condition idéale.
Voilà. Mais je crois que l'espace n'est pas froid. En réalité, je crois que c'est une perception, mais je crois que l'état, c'est pour ça que c'est très difficile de refroidir.
Quand on est dans un avion, ils nous disent la température extérieure.
Mais en fait, je crois que c'est pour ça que c'est très difficile de refroidir. Enfin, et c'est un des challenges.
Quand tu dis froid, c'est-à-dire quand il y a les rayonnements solaires, il y a ce côté, j'imagine, de chaleur. Mais
ce qui est intéressant, c'est que encore récemment sur ce plateau, on disait c'est une espèce de lubie d'Elon Musk de vouloir mettre des data centers, et puis c'est un bon moyen d'expliquer qu'il a besoin de lever beaucoup d'argent pour SpaceX à la veille de son rentrée en bourse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à le penser. Et Sundar Pichai, même s'il y a 6% d'actions, mais ils ont tous des actions partagées, Sundar Pichai, en fait, y réfléchit depuis, semble-t-il, un certain temps. Ils ont des POC, c'est-à-dire des premiers essais qui sont prévus, avec une société qui s'appelait Planet Lab, et les difficultés à résoudre, c'est effectivement la maintenance, parce que même si c'est à 600 km, ça paraît pas très loin sur la Terre, mais il faut y aller, donc changer un disque, c'est un peu compliqué. Donc il y a effectivement la maintenance, la résistance de l'électronique, s'il y a des tempêtes, une grande complexité.
Non, puis il y a les déchets dans l'espace aussi.
Des chocs, etc. Mais il semblerait, et c'est ce qu'a l'air de dire Musk, et c'est ce qu'a l'air aussi de dire Sundar Pichai, que au global, le coût pourrait être compétitif par rapport aux investissements nécessaires sur la Terre, connaissant effectivement les contraintes, notamment énergétiques. Alors, cela dit, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la fusion, c'est-à-dire une énergie à prix zéro. Ça veut peut-être dire qu'effectivement, c'est moins avancé que ce que l'on pouvait dire il y a un an et demi ou deux ans sur ces projets-là. En tous les cas, la quête de l'énergie et le pouvoir accéder à l'énergie, ce que va proposer Musk, est une vraie source de pouvoir.
Il y a l'histoire d'énergie, il y a l'histoire de latence aussi, parce que, alors je disais, c'est 100 km, les liens satellites, on voit quand même que ça s'est considérablement amélioré. L'histoire de souveraineté aussi, quelque part, ça va être et de cybersécurité, je pense que, pirater un lien satellite, ça va être quand même un peu plus compliqué que pirater une fibre optique.
Ouais, non.
Je miserais pas là-dessus. là-dessus, non, moi, bon, parce que justement, tu maîtrises un peu moins qui s'approche de ton système. Non, mais juste pour sur la fusion, en fait, aujourd'hui, on maîtrise le procédé, hein, en gros, sur une demi-heure, ce qui est quand même un progrès colossal par rapport à il y a ne serait-ce qu'un an et demi, deux ans. Et Google investit aussi sur ce thème-là. Bah, c'est pour ça que je disais que l'électricité, l'énergie est vraiment le facteur limitant aujourd'hui de l'IA, et on voit bien que tous les grands de la tech cherchent des manières de faire.
Exactement. Dans la fusion et l'espace.
Ce qui est intéressant quand même dans cette info, c'est encore une fois les liens endogamiques qu'il y a entre les uns et les autres. Quoi. Je te fais un coup de main là-dessus, tu viens m'aider pour faire ci, j'investis dans ta boîte, mais je vais utiliser tes services, etc. On parlait d'Anthropique avec...
SpaceX sur le projet Columbus. Ouais.
Mais ça a toujours existé, et c'est ce qui
Nvidia
fait la...
avec Intel.
C'est la force du hub et de l'écosystème de la Silicon Valley. Il y a 25 ans, c'était déjà le cas. Yahoo avait des parts dans Google.
Ils se connaissent tous, en plus,
Yahoo avait des parts dans Alibaba. Yahoo a été sauvé par la valorisation d'Alibaba. Cette espèce parce qu'ils se connaissent tous.
Il y avait plus d'acteurs, je pense, à l'époque qu'aujourd'hui.
Je sais pas.
Le monde de l'IA,
les valorisations étaient moindres.
Il y a
5
entreprises et des satellites autour, quoi.
C'est vrai. Mais en tous les cas, ces relations, les gens se connaissent, c'est assez normal, c'est un village. Et donc, les investisseurs croisent régulièrement les chefs d'entreprise.
Allez, revenons sur Terre, et vraiment bien sur Terre, les deux pieds dans la glaise, les deux pieds robotiques, les deux pieds de nos robots bipèdes. Toi, Didier, tu l'avais carrément mis dans tes sujets, ton premier sujet dont il fallait débattre ce soir, c'est la start-up américano-norvégienne Wanix, qui ouvre une usine en Californie pour fabriquer, alors voilà, 10 000 robots néo par an. Le premier humanoïde grand public est à 20 000 $, alors on peut soit l'acheter, soit l'avoir avec un système de location. Il y a juste un détail, c'est qu'il n'est pas totalement autonome et un opérateur humain peut prendre la main. Et donc, s'il se promène chez nous, je crois que l'opérateur humain, il met un casque de réalité virtuelle et puis il pilote le robot s'il y a le moindre souci, mais ça veut dire qu'il est chez nous.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu des commandes pour une année de livraison de produits. Donc, il y a des gens qui font entièrement confiance à ce genre de produits. Et je ne sais pas s'ils sont vraiment informés sur tous les enjeux que ça représente. Parce qu'effectivement, on l'a vu, la vidéo de ce robot qui sort la machine du lave-vaisselle, qui plie les vêtements et qui les range, etc. On se dit, c'est le monde de demain. Ça me fait penser à la science-fiction qu'on voyait dans les années 50 avec ces paysages idylliques, ces voitures volantes, etc. Le seul souci, c'est qu'il a besoin d'entraînement, et l'entraînement qu'il a est un entraînement assez généraliste. Et pour faire des tâches un peu plus compliquées, c'est là qu'il y a une décharge de souveraineté, je dirais, où effectivement l'opérateur à distance prend en charge le robot et lui montre les gestes à effectuer pour qu'il puisse s'entraîner et faire son apprentissage et mener à bien sa mission. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il regarde tout ce qui se passe chez vous, que même
Il cartographie la maison, déjà.
Il cartographie la maison, il voit les personnes qui sont là, il peut en déduire des informations sur la richesse du foyer, sur le nombre d'enfants à charge, sur les tendances politiques, artistiques, en fonction de ce qu'il voit, etc. Il y a plein de choses derrière qui arrivent. Alors, la boîte en question dit, nous, Wanix, nous...
On
floute les personnes, on donne un cadre horaire, on crée des zones, des no-go zones pour éviter que le... Mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on sait très bien comment ça va marcher. N'importe quel pirate va rentrer dedans et va avoir toutes les informations possibles, imaginables.
Souvenons-nous, il y a quelques semaines, on recevait ici un pirate qui avait piraté des aspirateurs de robots.
Donc il y a eu ce précédent-là. Maintenant, vous imaginez, avec un produit comme ça, il aura accès à tout ce qui se passe dans la maison, même peut-être le code de l'alarme qu'il aura vu quelqu'un effectuer. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que va faire cette entreprise des données qu'ils vont récolter. Ils vont forcément les monétiser à un moment ou à un autre. Et puis tout ce qui est l'aspect judiciaire, il peut y avoir des abus. On l'a déjà vu, aucun régime n'est à l'abri d'un changement brutal de politique.
Et tout d'un coup, le robot devient le gardien de la maison. Et
ils vont demander à accéder à toutes les
informations.
Imagine en
période de confinement, en disant « Ah non, on sort pas ». Se met devant toi, Isabelle.
Oui. Alors moi, je suis vraiment, et c'est d'ailleurs la mission de Right & See, de protéger la donnée personnelle. Donc je suis extrêmement attentive à ça. Cela dit, dans ce cas-là, Et pour avoir vu des gens qui ont perdu leur autonomie, et c'est là où on va, c'est-à-dire oui. que la démographie aujourd'hui des pays occidentaux est en baisse, on va avoir de plus en plus de gens qui ont eu des pertes
d'autonomie.
Même
la Chine, la Chine s'y
trouve. Et il y a de moins en moins de jeunes pompiers qui sont là, 24-24, pour venir soulever la vieille dame, s'assurer qu'elle n'est pas tombée,
mais là,
etc.
Tu parles de choses avec des bonnes intentions. Est-ce que tu crois une seule minute que les gens qui ont créé ça ont des bonnes intentions ?
Je n'en sais rien. La seule chose que je dis, c'est que aujourd'hui, lorsque vous faites venir quelqu'un pour aider quelqu'un qui est dans la difficulté et qui n'est pas autonome, vous n'avez pas forcément son casier judiciaire non plus. Donc le problème existe quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une perte d'autonomie d'une partie de la population de plus en plus grande. Que la personne soit chez vous et abuse de vous, et on l'a vu encore récemment avec des histoires d'Orpea, etc., qu'elle abuse de cette perte d'autonomie, qu'elle soit directement chez vous ou par l'interface d'un robot... Les deux sont extrêmement compliqués. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on va plus, ou dans les 10 prochaines années, on n'aura plus suffisamment de bras humains qui vont en plus coûter de plus en plus cher pour faire face à la vieillesse de la population. Alors, sauf si Laurent Alexandre trouve un système pour que l'on vieillisse tous extrêmement bien et sans perte d'autonomie, je pense que ces sujets-là sont vraiment à regarder avec attention. Avec, bien évidemment, toutes les barrières qu'il faut mettre sur la qualité des gens qui sont derrière les écrans, etc. Mais à un moment donné, ça va devenir indispensable. Alors, il y avait des Japonais qui avaient effectivement eu ces idées les premiers. Les Coréens, parce que c'est un peuple qui vieillit.
Et les Chinois s'y mettent, parce que aussi, c'est la démographie en Chine est en train
mais
de
bien
chuter.
Sûr.
Ils sont 700 millions, je crois, dans quelques années.
Donc, tous les pays occidentaux et maintenant asiatiques, et plus uniquement le Japon, sont confrontés à cette perte d'autonomie. Et donc, il y a un moment donné où il va falloir trouver des systèmes. Est-ce que c'est vivre ensemble ? Est-ce que c'est vivre avec un robot ? Etc. Mais c'est absolument...
C'est pas ce que montre cette entreprise qui vise clairement un public plutôt fortuné.
Là, on voit des seniors.
Ouais.
Fortunés, mais seniors.
Accessoirement,
Alain.
Alors, moi, le sujet de la robotique humanoïde et du maintien à domicile, c'était un de mes sujets de recherche en 2016. Tout ça pour dire que il y a mine de rien en 10 ans des progrès quand même extrêmement importants, puisqu'à l'époque c'était avec Aldébaran Robotics, un projet qui s'appelait Roméo, qui était une espèce d'armoire à glace de 250 kilos. Effectivement, on était très très loin de tout ça, et je me suis retrouvé face à face avec cette espèce de mastodonte, et on voit quand même mine de rien les énormes progrès techniques qui ont été réalisés sur une échelle de 10 ans.
Parce que c'est 40 ou 50 mécanismes à l'intérieur de ces robots.
C'est d'une complexité colossale. Mine de rien, j'ai pas eu le temps de regarder quelle est la durée d'autonomie en termes d'énergie électrique, on y revient, de ce dispositif. Moi, les robots humanoïdes, j'ai pas regardé celui-là, mais j'avais vu plutôt de l'ordre de 20-30 minutes. Mm-hmm. C'est encore assez light en termes de capacité. Enfin, la promesse est un peu trop élevée par rapport à la réalité de ce que j'ai vu. Après, il y a le vrai sujet de l'acceptation et de l'acceptabilité en fait du produit. À l'époque, quand j'avais interrogé des personnes âgées, en gros, ils m'expliquaient, non mais moi, un robot humanoïde, jamais de la vie, parce que le jour où j'achète un produit de ce type-là, ça veut dire que je reconnais moi-même ma propre dépendance. Mmh. Et ça, c'est en fait un geste extrêmement compliqué pour les personnes, justement, qui sont sur la voie de se retrouver sur la dépendance. Et on voit bien que du coup, c'est plutôt je repousse. Donc, est-ce que réellement les personnes âgées vont être la cible acheteuse du produit?
Surtout quand on n'a pas été, on parlait du Japon, nous on n'a pas trop été,
culture.
En Occident, on n'a pas été élevé là-dedans, les Japonais peut-être un peu plus.
C'est pas du tout notre culture. Et après, moi je rejoins effectivement le point de la problématique de la
privé,
donnée. Enfin, le truc c'est que là, ça me rappelle, tu sais, un peu les Waymo qui sont quand même conduits à distance par des humains. On fait croire que l'IA, la machine aujourd'hui, c'est un truc magique, mais on oublie de dire que les modèles de génération de texte sont quand même pré-entraînés par des humains dans des conditions qui sont pas forcément dingues. Là, on a des opérateurs qui peuvent prendre la main, c'est pareil sur les voitures, etc. Donc, il y a quand même tout un narratif autour de la technologie qui a finalement, pour le coup, pas trop changé en 10 ans. Mais il y a une réalité qui est effectivement un vrai point d'interrogation. Et effectivement, je crois que le vrai danger, c'est qu'on fait rentrer aujourd'hui des dispositifs dont on ne maîtrise quand même franchement plus rien en termes de sécurité.
Bon, voilà, c'était un sujet en tout cas intéressant. Voilà, on est au tout début hein, de tout ça, mais on voit 20 000 $. Je dirais pas que c'est abordable, mais pour certains foyers, bah, 20 000 $, oui, c'est le prix d'une petite auto, une petite automobile. Donc pourquoi pas s'offrir ça. Faudra regarder.
Ah, c'est beaucoup plus que les 2 millions d'il y a 10 ans.
Hein. Il faut que ça marche plus d'une demi-heure. Quand même.
Oui, quand même. Oui, oui, oui. Parce que la vitesse de vider la vaisselle, là, c'est la vitesse d'un ado à peu près une demi-heure. Hein. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve avec nos trois débriefeurs, Didier Sanz, Alain Goudet, Isabelle Bambry dans un instant. On va parler notamment du procès entre Sam Altman et Elon Musk. Ça commence à se battre sérieusement hein, sur ce procès. On parlera aussi de pourquoi. Tiens, hier on vous disait que Jensen Huang ne serait pas du voyage avec Donald Trump pour aller voir Xi Jinping. Et finalement, hop, il a eu un strapontin dans l'avion, comme par hasard. Voilà, on parlera de tout ça. Allez, restez avec nous. On est encore ensemble pendant une bonne heure sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, débrief de la tech, c'est reparti pendant une bonne demi-heure et ensuite on retrouvera Laurent Alexandre avec son co-auteur Alexandre Tsikopoulos. 40 ans les séparent, je le précise parce que justement c'est important dans ce livre. Vivre 1000 ans quand l'IA règne et la mort recule, rêve ou cauchemar. On en parle avec nos amis tout à l'heure, mais pour l'instant on est sur notre débrief avec Didier Sanz, journaliste, Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, et Isabelle Bordry, fondatrice de Retency. Un mot sur le grand règlement de compte de la tech qui continue devant les tribunaux, hein, troisième semaine du procès qui oppose Elon Musk à Sam Altman, avec un moment très attendu hier soir, la comparution du patron d'OpenAI, et forcément sa version des faits est très différente de celle d'Elon Musk. On écoute ce qu'en a dit ce matin Anthony Morel et on revient en plateau, et vous allez voir, ça a pas mal dézingué.
Musk accuse Sam Altman, alors qu'il surnomme d'ailleurs pour la petite histoire Scam Altman, donc c'est arnaque Altman, c'est dire déjà l'ambiance entre les deux hommes, d'avoir, je le cite, volé une œuvre caritative. Il faut se souvenir que les deux hommes ont cofondé OpenAI en 2015. À l'origine, c'était une organisation à but non lucratif qui voulait développer une IA au service de l'humanité, éviter qu'elle ne tombe entre les griffes de grands groupes privés. Et puis ensuite, ChatGPT est arrivé, OpenAI s'est développé et Sam Altman a un peu oublié ses grands principes, expliqué Elon Musk. Tout ça, c'est complètement faux, nous dit Sam Altman. Quand on lui demande si Musk s'est opposé à ce virage lucratif vers une entreprise à but lucratif, donc, il répond, bah non, c'est tout le contraire. En fait, Musk a voulu accélérer la transformation commerciale d'OpenAI. Il aurait même tenté d'en prendre le contrôle. Il aurait exigé une prise de participation de 90% et une fusion d'OpenAI avec Tesla. Il estimait, en fait, être le seul, être capable de piloter cette intelligence artificielle. Il voulait même en faire une sorte de monarchie héréditaire, si l'on peut dire. Alors ça fait halluciner tout le monde lors du procès. Altman raconte que lorsque les cofondateurs ont demandé à Elon Musk ce qui se passerait s'il mourait, il a répondu que le contrôle d'OpenAI pourrait revenir à ses enfants. Bon, alors il y a eu ensuite un contre-interrogatoire assez musclé de Sam Altman par l'avocat d'Elon Musk où il a tenté, et il a tapé un peu là où ça fait mal, de le faire passer pour un menteur pathologique en lui demandant plusieurs fois, est-ce que vous êtes sincère? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que vous dites toujours la vérité? Pourquoi? Parce que Sam Altman, il a une réputation, c'est un visionnaire, c'est un génie, mais il a une réputation, il traîne une réputation de manipulateur et de menteur. On a vraiment deux camps qui se renvoient la balle. D'un côté, Musk qui estime que Sam Altman a trahi le projet initial d'OpenAI et Altman qui accuse Musk d'être simplement jaloux d'avoir quitté le navire avant l'explosion mondiale de ChatGPT.
Bon, on le rappelle que c'est pas un procès anodin, hein. C'est vraiment ça pourrait avoir des impacts considérables sur tous ces acteurs de l'IA, et notamment OpenAI qui est l'un des piliers et dont l'introduction en bourse est prévue bientôt. Enfin, et puis pourrait pourrait venir milliards. Qu'est-ce qu'il faut voir de tout ça? Alors ça y est, là Sam Altman, c'était un des moments forts hein, du procès parce qu'il défile tous. Hein. Il y a eu Satya Nadella qui est venu aussi parler de l'époque. Quand Sam Altman a été débarqué, voilà, de la direction d'OpenAI, puis finalement il est revenu. Enfin voilà, tout le monde a témoigné, Elon Musk compris, et donc là Sam Altman. Isabelle.
Ouais, ce qui est assez étonnant, c'est la guerre de deux hommes très puissants, et on s'aperçoit qu'effectivement ces sociétés sont à la main de personnalités qui sont quand même assez étonnantes, différentes, exceptionnelles, on va dire.
À la fois géniales,
voilà. Alors maintenant, entre les deux, je pense que Sam Altman a beaucoup plus à perdre qu'Elon Musk. Parce que Elon Musk, ça fait 26 ans, voire plus, 30 ans que les marchés financiers le connaissent. Depuis qu'il a vendu PayPal à eBay, qu'il a fait ses multiples levées de fonds pour SpaceX, pour Tesla, qu'il a racheté X, qu'il avait même été accusé à un moment de manipuler le cours de X et de négocier de manière un peu particulière. En fait, son côté irascible, difficile, est déjà dans les cours des sociétés qu'il dirige, en fait. C'est déjà intégré par les investisseurs. Alors que Sam Altman, alors il est très connu grâce à OpenAI, mais il débute aujourd'hui en tant que chef d'entreprise.
Certains le connaissaient quand il était chez Y Combinator, mais voilà,
mais
il n'était pas porté
chef d'entreprise, créateur de valeur réellement, et il est, le côté IPO devrait, son IPO est annoncé, mais elle est retardée de plus en plus avec une directrice financière qui essaie d'expliquer qu'il faut mettre plus de rigueur dans la gestion d'OpenAI. Et donc, lui est obligé d'expliquer à tous qu'il est honnête, qu'il a de l'éthique. Et ça, c'est quand même absolument fondamental. Et donc, il se retrouve dans une situation extrêmement défensive qui, à mon avis, est très préjudiciable pour OpenAI. Alors maintenant, ce qui est aussi terrible, c'est qu'on s'aperçoit qu'aux États-Unis, la manière dont est gérée une entreprise dépend de la personnalité de son CEO. Et je trouve bien plus que dans les entreprises européennes, où il y a une plus forte mise de la régulation,
d'ailleurs, on est souvent un président au-dessus
de la
norme,
etc. Voilà, on voit par exemple Mark Zuckerberg a une gestion de la vie privée qui est très différente de ce que peut avoir un Tim Cook ou que pouvait avoir un Steve Jobs. Donc il y a des l'ADN en fait d'une société aux États-Unis est porté principalement par son fondateur. Et ça, c'est ça m'a toujours extrêmement marqué, c'est-à-dire que la culture d'entreprise dans les entreprises européennes est quand même beaucoup plus diluée dans un comité d'administration, il y en a aussi aux États-Unis, mais dans un comité directeur, des valeurs de marque qui sont plus universelles et pas uniquement liées à la personnalité du CEO. Voilà, donc on va voir ce qu'il en ressort. Je pense que Musk a beaucoup moins à perdre. Alors après, qu'une société fasse un pivot, parce que c'est un peu ce qui s'est passé, ils avaient cofondé cette société au départ en se disant il va y avoir une intelligence artificielle et il faut que ça soit du non-profit. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a plusieurs intelligences artificielles.
Il faut gagner de l'argent.
Même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, il y a eu ce pivot qui a été fait, poussé sûrement par Microsoft et Sam Altman. Il se trouve que c'était pas en accord avec Musk, c'est une guerre entre associés. Voilà. Après, que Musk dise « je veux que mes actions aillent à mes enfants », je ne suis pas plus sûr.
C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que je veux que la direction d'entreprise aille à mes enfants.
Alors
c'est
après,
un côté très régalien.
S'il en a 90%, s'il en a 90%, c'est ce que fait Bernard Arnault et ça choque personne. Donc après, tout ça se regarde avec beaucoup d'attention parce que tout dépend de la participation des uns, de l'adoption de la stratégie par les autres. Enfin, tout ça est compliqué,
Alain,
comme toute association.
Didier.
On y retrouve un peu le côté endogamique de la Silicon Valley qu'on évoquait. Et là, le truc, c'est que ça déballe un peu les affaires familiales au grand jour.
Oui, puis en plus, je te traite de mensonge, moi je te traite de menteur, l'autre arnaqueur.
Ouais, ça vole pas très haut.
Musk qui joue un rôle là-dedans.
Oui, il y a quand même effectivement des trucs pas super clairs, parce que là, tu fais bien de le rappeler.
Oui, d'ailleurs, qui était un peu un indique d'Elon Musk au sein d'OpenAI.
Mais Guillaume Gralet, dans son bouquin Pionnier, le décrit assez bien. C'est intéressant à lire, hein, d'ailleurs, sur un peu l'envers du décor. Et tu le dis très très bien. Hein. C'est vrai qu'aux États-Unis, l'ADN des fondateurs et la vision, la culture imprègnent énormément l'entreprise. Et du coup, c'est intéressant de regarder comment ces personnages fonctionnent en fait sur leur rapport au monde. Et c'est ce qu'explore Guillaume. Mais du coup, on a effectivement ce sujet où, bon, quand on regarde le discours des uns et des autres, c'est un peu mentira bien qui mentira le dernier, quoi. Enfin, c'est un peu... voilà, on sait pas trop. Je suis pas sûr qu'on ait moyen réellement de faire toute la lumière sur le sujet, mais
parce que là, c'est parole contre parole.
On verra. Je rappelle quand même aux États-Unis que la justice, généralement, se règle avec un bon chèque. Je serais pas surpris que ça termine au final comme ça. Et par contre, je trouve que la question que ça soulève, c'est la problématique, en fait, de la gouvernance. En fait, de ces quelques sociétés qui maîtrise ce truc qu'on appelle IA, et notamment qui se destine à être IA générale dans notre quotidien, et on reboucle.
C'est qui, de temps en temps, s'affole en disant attention, l'IA, ça va trop vite, oh là là, je vais pas la mettre à la portée du grand public.
Qui nous joue un peu le truc de mais quand même, faut pas que ça aille trop vite, mais on avance très très vite, puis au fait, ça va détruire tous les emplois, mais on y va quand même. Enfin, on a une espèce de discours un peu d'injonction paradoxale quand même de ces personnes-là, Musk, Altman, du côté d'Anthropic, pareil, hein, Amodei. Enfin, voilà, ils nous servent un peu tous le même discours et mine de rien, en fait, tout avance. Et après, il y a le dernier point. Bah, Elon Musk a quand même son investissement très fort dans sa capacité de compute, comme on dit. Mais du coup, avec un Grok qui a un peu du mal à décoller, oui, en tout cas, qui est très très loin derrière.
On l'a appris. Hein, on en a débattu là lundi soir, comme quoi Grok, voilà, était bien derrière les OpenAI.
Et oui, donc et du coup, bon, tout ce qui peut être bon pour freiner le leader peut être intéressant à regarder.
Et après,
quoi.
Effectivement, se joue où est le pouvoir en fait. Oui. Est-ce que le pouvoir est vraiment dans l'outil et dans l'entraînement? Est-ce que le pouvoir est sur la maîtrise de l'énergie? Est-ce que le pouvoir, c'est sur les lanceurs qui vont permettre d'avoir l'énergie du soleil? Tout ça est assez complexe et c'est effectivement ce qui crée une guerre de pouvoir.
Didier, et même, est-ce que dans l'histoire, on n'a pas connu, des batailles, hein, on se souvient de Bill Gates face au patron de Sun Microsystems, voilà, il se lançait des petits pics, Larry
Ellison. Ou même Steve Jobs contre Bill Gates.
Steve Jobs, voilà. Mais il n'y a jamais... Enfin,
C'était correct. Non, ce qui est intéressant dans ce process, c'est qu'on en apprend beaucoup sur Sam Altman. Effectivement, comme le disait Isabelle tout à l'heure, c'est une personnalité qu'on connaît assez peu finalement. Mm-hmm. Et on découvre un personnage manipulateur, menteur, qui cherche à tout pour obtenir gain de cause. Rappelez-vous, en 2023, on était sur ce plateau pour en parler, on venait d'apprendre qu'il a été débarqué effectivement d'OpenAI, on se demandait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un putsch à l'intérieur de cette boîte. Heureusement, deux jours plus tard ou trois jours plus tard, les choses sont entrées dans l'ordre. Et on a
grâce à Satya Nadella.
Voilà. On a le fin mot de l'histoire, parce que le type est insupportable, apparemment. Même ses collaborateurs sont venus en disant Sam Altman, il n'est pas facile à jouer tous les jours. Et en plus, il monte certains collaborateurs les uns contre les autres. Il dit une chose à l'un alors qu'il a dit le contraire à l'autre, etc. Bref, on découvre.
C'est ce qu'on a de gens plus privés. Alors, ils m'ont raconté que des gens qui travaillaient avec lui disaient que voilà, parfois, on divisait pour mieux régner, mais voilà, c'est un management un peu toxique.
Voilà, donc on découvre cet aspect de Sam Altman, à qui on donnerait le bon Dieu et son confession. Il a une bonne tête, il est gentil, il a l'air toujours un peu étonné, un peu timide, etc. Bon, méfiez-vous, on ne juge pas un livre par sa couverture, comme dirait l'autre. Et à côté, on a le personnage d'Elon Musk qui joue son rôle, c'est-à-dire une espèce de d'éléphant dans un magasin de porcelaine où il arrive pour tout casser et où il explique que seule sa vérité compte, même si les avocats lui disent que sa vérité n'est pas forcément la vérité qu'on attend dans ce genre de tribunal. Et notamment, on découvre qu'il a manifestement souhaité prendre le contrôle de OpenAI, que ça s'est pas passé et que du coup, il en conçoit un certain ressentiment.
Alors, souvenons-nous qu'à une époque, il avait aussi, quand on avait parlé d'Apple, la succession de Tim Cook, il avait proposé. Enfin, il se dit. On n'a jamais eu la preuve de
non,
tout ça.
D'ailleurs, ça m'étonne parce qu'il l'aurait écrit sinon.
Ouais.
Il l'aurait publié sur X.
Mm-hmm. Parce qu'on on soupçonne qu'il aurait dit à Tim Cook, allez, tu rachètes Tesla et puis je deviens le patron d'Apple.
Comme le disait bien Isabelle tout à l'heure, en fait, qui a gagné quelque chose dans cette affaire? Aucun des deux.
Il y en a peut-être un qui a plus à perdre.
Quoique Elon Musk, lui, on connaît le personnage, on sait que c'est un taré, que bon, il prend des décisions un peu à l'emporte-pièce, mais
il a des réussites quand même au contraire.
Non, mais c'est pas la question. C'est le fait est qu'il se fiche complètement de sa réputation. Ça fait des années qu'il mène la direction de différentes entreprises.
Et n'oublions pas qu'il y a encore un an, il était dans la politique et il était en train de massacrer
l'administration
Trump.
Donc lui, il s'en fiche complètement de sa réputation. On sait que c'est un personnage extrême, parfois un peu loufoque. Mais encore une fois, il s'en fiche. Alors que Sam Altman, effectivement, le problème, c'est qu'on découvre la personnalité de ce bonhomme.
C'est peut-être lui qui a un peu plus à perdre.
Qui a tout à perdre, parce qu'à quelques mois, effectivement, d'entrée en bourse, ça va créer une mauvaise image sur sa boîte, et du coup, les investisseurs vont être un peu plus timides à lui faire confiance, parce qu'ils découvrent, encore une fois, quelqu'un qui est manipulateur et menteur.
Ouais.
Oui, c'est ça. En fait, le point clé et le point faible, c'est absolument celui-là. C'est-à-dire
même
la
si
capacité,
oui.
Absolument, la capacité de Sam Altman à pouvoir entraîner une équipe pour innover, renouveler et créer de la valeur. Aujourd'hui, Musk, il est absolument un tyran, mais Steve Jobs l'était aussi, Bill Gates était aussi pas très agréable. Donc, le fait que vous soyez pas très agréable n'est pas un sujet. Mm-hmm. Par contre, votre capacité à faire travailler les gens ensemble, à trouver les bons, à les motiver, ça c'est un élément clé pour les investisseurs.
Et en plus, moi je trouve qu'à les trouver au bon moment, je trouve que Musk, il a une des capacités, c'est, on dit oui, là, il jette des gens comme des mouchoirs, oui, mais il dit à un moment, tiens, là, il faut que je franchisse, enfin que je...
Un cap supplémentaire, il va trouver les talents,
et il va virer cela, même si celui-là l'a aidé,
il va les séduire pendant un certain temps, absolument.
Oui.
Et là, la capacité, enfin, Sam Altman, il n'a pas encore vraiment créé de valeur. Alors, un peu, oui, bien sûr, mais pour l'instant, c'est que...
Il a créé
papier,
un standard, déjà.
Il a créé un standard, Mais par rapport à ce qu'a fait Elon Musk, ça n'a rien à voir. Et donc, pour les investisseurs et l'entrée en bourse, je pense que ce sujet, et c'est pour ça qu'il est très couvert par la presse américaine et par les médias du monde entier, c'est le fait que l'IPO arrive, ou devrait arriver, ou n'arrivera peut-être jamais. Moi, à mon avis,
une IPO, on entend
il n'arrivera pas.
1 milliard de dollars, quand même, on n'est pas...
Oui, mais ça va attendre les résultats du procès.
C'est ça, alors que l'IPO de SpaceX à 1750 milliards de dollars, là, par contre, c'est quelque chose qui existe, il y a des premiers rapports qui sont faits, etc. Donc, voilà, je pense que pour OpenAI, moi, je pense que OpenAI, c'est un peu le Netscape des années 2000, on verra s'il arrive à s'en sortir. Je pense que c'est encore un coût négatif pour cette équipe. Alors, qui pourtant a fait un produit assez exceptionnel.
Je rebondis là-dessus, parce qu'effectivement, le fait est qu'en ce moment, OpenAI va mal.
Bien sûr.
Rappelez-vous, ils sont en retard sur les modèles.
On a parlé de faillite.
De langage.
Alors, pas jusque-là, mais quand même.
Ils perdent des sous énormes. Ils sont en retard sur leur modèle de codage, etc. Ils se sont pris les pieds dans l'histoire du marché du Pentagone en prenant la place tout de suite, en se précipitant pour prendre la place d'Anthropic, qui refusait pour des raisons éthiques de participer à ces opérations. Bref, ils avaient déjà une image qui était bien écornée, et là, je pense que ça va encore les plomber.
Et puis même si Fujisimo est venue, bon, malheureusement, elle a dû se mettre un peu en retrait pour des raisons de santé, mais elle est venue un peu remettre un peu d'ordre, mais on l'a bien vu. Remise en ordre, c'est de dire, bon, les gars, la récréation est finie, on va arrêter Sora grand public, il y a des choses qui sont lancées un peu à la va-vite, on va quand même se concentrer sur ce qui doit rapporter de l'argent. On sent bien qu'elle a dû découvrir un peu que le management était un peu particulier, et la gestion aussi. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. On va rester dans les personnalités. Vous savez que, je pense que ça ne vous a pas échappé que Donald Trump a atterri il y a quelques heures en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Dans son avion, alors plein de patrons, des patrons de la tech justement, alors il y a Tim Cook. Hier, on s'en faisait l'écho ici même. Il y a un certain Jensen Huang qui se plaignait, qui ne comprenait pas. Il n'avait pas été invité. Et puis finalement, Donald Trump a dit, mais pas du tout, il y a eu une petite erreur, on a dû oublier le mail ou je ne sais quoi, et au final Jensen Huang était bien dans l'avion.
Pendant l'escale.
Voilà, il a été clairement repêché. Alors c'est vrai que les relations Jensen Huang avec l'administration américaine, parce qu'il voudrait qu'on assouplisse les règles de douanières pour pouvoir mieux exporter en Chine, la concurrence, parce qu'il voit en même temps que quand il n'est pas en Chine, la concurrence elle s'organise aussi derrière tout ça. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être un côté de Donald Trump? Oui, Jensen Huang, il y a un peu d'origine taïwanaise, ça peut fâcher. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Comment il faut voir ça?
Donald Trump de racisme, c'est ça?
Il n'y a rien dit.
De lutter contre l'immigration.
Voilà. Comment voyez ça, Didier?
Alors, c'est complètement rocambolesque, cette histoire. Déjà, comme tu te disais, un jour il est là, le lendemain il est. Un jour il est pas là, le lendemain il est là. Et puis surtout, l'argument, c'est de dire oui, il a vraiment des choses à dire au président chinois, etc. Mais il a rien à dire au président chinois. La seule interlocuteur qu'il a, c'est Trump. C'est Trump qui l'empêche d'exporter ses produits qui lui rapportent le plus en Chine. Et c'est Trump qui, du fait de l'embargo sur les systèmes électroniques, a permis à la Chine de créer des concurrents crédibles face à Nvidia. Donc, qu'il aille en Chine, ok, je veux bien, mais Ce qui l'intéresse surtout, c'est de faire le vol avec Trump pour pouvoir le dire, lui donner les coups de coude en lui disant « Il faut vraiment que j'arrive à vendre ma production en Chine. »
Il était dans la soute. il n'était pas en première à l'avant.
Donc, il n'arrête pas de dire que le contexte économique ne lui est pas favorable. Encore une fois, c'est pas au président chinois qui va s'adresser. Il va essayer de convaincre Trump d'assouplir les règles mm-hmm. pour qu'il puisse retrouver ses parts de marché en Chine, qui représentait quand même c'était un cinquième de son oui. chiffre d'affaires. C'était énorme.
Avec perspective énorme, bien entendu.
Déjà, un premier truc, c'est que quand même, Nvidia est le marchand d'armes de la guerre de l'IA hein, mm-hmm. au niveau mondial. Et effectivement, c'est une équation très compliquée à gérer pour l'administration Trump. Parce que à la fois c'est une entreprise américaine qui n'est plus complètement américaine puisque son rayon d'action est mondial et finalement représente un enjeu géostratégique important. Et donc ça plaide plutôt quand même pour l'emmener. Mais c'est aussi un enjeu géostratégique important et ça plaidait pour ne pas l'emmener parce que une des équations c'est d'essayer de ralentir la Chine sur ses progrès autour de l'IA. Et ce faisant, l'administration qui était au départ sur un bannissement complet a finalement allégé déjà un peu son dispositif parce que le bannissement complet a engendré ce qui se passe habituellement mmh. et ce qu'on connaît déjà sur le modèle chinois. Ok, c'est pas autorisé sur le territoire, c'est pas grave, on va faire avec nos propres
entreprises. On va se débrouiller, on va faire ça de façon frugale, mais on va y arriver.
En termes de hardware, il y a en gros, je crois, 6 mois, 1 an maximum de décalage en termes de capacité du hardware chinois versus le hardware américain.
Ouais. Ils ont vraiment réduit, parce qu'on parlait de plusieurs années,
L'équation, c'est comment finalement un truc qui était le bannissement complet fait naître de la concurrence, qui n'est pas très arrangeant pour les affaires. Donc voilà, et l'administration Trump est prise un peu dans ce truc-là. Et je rejoins complètement ton analyse. Je pense que le sujet, c'est pas tellement de pouvoir parler avec Xi Jinping, c'est plutôt de profiter du temps de vol aller et retour pour essayer de convaincre effectivement l'administration Trump de laisser finalement Nvidia opérer en Chine.
Et en fait, c'est le seul sujet sur lequel Biden et Trump étaient alignés. C'était sur le fait de bloquer et de faire en sorte que les Chinois n'aient pas accès aux semi-conducteurs, entre autres de Nvidia, c'est-à-dire aux supercalculateurs. Et en fait, le premier règlement, et en plus c'est vraiment passé au Congrès, c'est une loi, il y a une interdiction depuis 2022 de vendre des puces extrêmement performantes avec une caractéristique spécifique, notamment produite par Nvidia, sur le marché asiatique. Donc après, ça a un peu évolué, alors ça s'est renforcé à un moment donné avec Trump, parce qu'il y a eu cette notion d'extraterritorialité, merci, qui d'ailleurs touche énormément d'entreprises, dont des entreprises européennes. On avait parlé d'ASML à ce moment-là, qui ne pouvaient pas vendre leurs produits parce qu'ils utilisaient dans leurs produits des brevets qui étaient des brevets issus des entreprises américaines, et donc ils avaient le marché chinois qui était de facto bloqué. Donc en fait, c'est cette notion de souveraineté dont on parle beaucoup sur ce plateau pour l'Europe, c'est-à-dire comment préserver sa souveraineté, comment empêcher son premier ennemi de devenir plus intelligent. Au début, on fait un blocus, on bloque tout. Alors il se trouve qu'effectivement, les Chinois sont des gens intelligents et qui vont assez vite et qui vont de plus en plus vite. Donc ça les bloque pas forcément. Mais ce sujet de la souveraineté américaine et cette difficulté pour Trump à se décider est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas, en fait, je le comprends un peu parce que, effectivement, Nvidia est un acteur extrêmement important, mais aujourd'hui, il n'a pas le droit de vendre à la Chine des produits extrêmement compétitifs pour des raisons que je trouve assez légitimes quand on est dans les chaussures des Américains.
Oui. Donc, en tout cas, il fait partie du voyage.
Finalement, et puis, il y est. Donc, peut-être que Trump va revoir sa copie et peut-être qu'ils vont discuter dans l'avion. Ils ont eu 2 heures de moins parce qu'il a pris son avion à Anchorage.
Non, après, c'est vrai que ce que disait Didier, c'est rocambolesque.
C'est assez rocambolesque.
Si, on l'avait bien invité, alors que hier, il le disait, j'ai pas. Enfin, dans son entourage, il dit qu'il n'avait pas été invité. Mais lui disait très, très politiquement, mais si on fait appel à moi, je serais ravi un prochain voyage
C'est peut-être grâce à ce buzz qu'il a été finalement.
C'est ce qui se dit. Il se dit que Trump a été très surpris par le buzz de dire il n'y a pas Jensen Huang.
Mais cela étant, ce que tu disais tout à l'heure n'est peut-être pas n'est peut-être pas malvenu, c'est-à-dire que le fait qu'il soit d'origine taïwanaise explique peut-être que Trump a eu peur que ça effraie ses interlocuteurs chinois.
Il suffit qu'il ait un ou deux conseillers qui lui disent « attention, c'est un Taïwanais ». Ça réagit un peu comme ça, à mon avis.
Oui, je pense qu'ils ont pas vraiment...
C'est assez basique, parfois.
Voilà, de notions sophistiquées de la géopolitique, mais c'est le problème, c'est que cet aréopage de PDG qui part en direction de la Chine, ça fait quand même un peu néocolonialisme sans aucun recul. Il y a un truc qui étonne tout le monde, c'est que dans le vol, dans les personnes de la délégation, il n'y a aucun spécialiste de la Chine.
Oui.
Il n'y a même pas un universitaire ou quelqu'un qui leur dirait « attention, les usages ceci ou les machins cela, etc. » Ils viennent pour faire du business.
Oui, bien sûr, mais Tim Cook connaît parfaitement la Chine.
Oui, mais c'est pas lui qui va donner des conseils, tu vois, de
géopolitique. Non, mais ça, bien sûr que pour la géopolitique, il y a les conseillers de Trump. Mais enfin, aujourd'hui, quand on voit le poids de ces grands CEO en Chine...
Ils connaissent l'aspect économique, tu vois ce que je veux dire. Et donc, si tu veux vraiment faire des relations durables entre un pays et un autre, il faut aller un peu plus loin que le seul
guide économique.
Bien sûr,
mais chaque président part en général, et Macron le fait aussi, et tout le monde le fait, part avec des acteurs économiques.
Et des universitaires.
Pour créer des partenariats.
Des gens de l'art et de la culture.
Allez, on s'arrête là. On avait un dernier sujet sur TikTok, hein, justement, en Angleterre. Ça aurait été intéressant d'en parler parce que, justement, ils prennent un peu le contre-pied de Bruxelles hein, en sortant une version payante. Vous payez, les utilisateurs britanniques pourront payer pour avoir TikTok, mais ils n'auront pas de pub. Et ça, c'est un peu anti-DMA, jugé Bruxelles à l'époque.
Ouais, c'est la stratégie des dealers.
Voilà, on en reparlera à une autre occasion. Merci à tous les trois. Didier Sang, journaliste. Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, et Isabelle Bordry, fondatrice de Retensi. Merci infiniment d'avoir porté votre enthousiasme autour de cette technologie, de tout ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, ça se passe vraiment à toutes les heures, il y a de nouvelles actualités. Allez, je vous donne rendez-vous dans un instant. On reçoit Laurent Alexandre, médecin, entrepreneur, et puis surtout co-auteur du livre « Quand l'IA règne, la mort recule, rêve ou cauchemar, vivre 1000 ans ». Alors, il avait déjà écrit un livre en 2011 sur la mort de la mort, et il est accompagné d'Alexandre Tsikopoulos, start-upper. Alors, si vous voulez le suivre sur X, voilà, ils s'échangent beaucoup, enfin, c'est assez intéressant de les suivre. Alors on va être ensemble avec eux pendant une bonne demi-heure, donc restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.